Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 11 février 1998, à Saint-Gelais.
J'espère que vous avez beaucoup réfléchi sur cette induction de l'acte. C'est capital pour nous. Alors, je comprends très bien qu'elle est plus ou moins lumineuse. Quand on voit un ciel comme ici, on comprend ce que c'est que l'acte. La lumière, c'est l'expérience tangible pour les anciens de ce que représente sensible, ultime. C'est bien la lumière. C'est quelque chose si extraordinaire. L'unité de notre monde physique. La théière du jardin, Thomas d'Aquin et Aristote sont d'accord. C'est pas si mal. Cette expérience de la dualité, nous l'avions très nettement en faisant la démarche inductive de la substance, l'expérience du sujet, de l'homme, l'individu.
Papa. Comment ça se fait? L'homme.
raison, c'est quand vous avez distingué papa et l'homme. Tant que vous n'avez pas fait cette distinction-là, vous êtes encore dans le berceau. Une distinction fondamentale, la dualité. Et nous avions vu, et nous y reviendrons, que ces deux expériences sont quand même quelque chose d'extraordinaire. Et Aristote, pour bien les montrer, a fabriqué ce l'âme de l'induction. Et l'induction, c'est ce qui nous permet de découvrir les principes propres. Nous n'avons pas l'expérience des principes, du principe, ou des principes propres. Alors, il y a évidemment cette découverte intellectuelle qui est quelque chose de radical, puisque la philosophie commence avec la découverte des principes propres. Autrement, j'ai une philosophie descriptive. Lisez l'introduction de livre de Merleau-Ponty sur la perception. Il vous dit sa méthode phénoménologique qui est descriptive et qui n'est plus une analyse, qui n'est plus la recherche de la vérité, mais qui est descriptive. En fin de lui, il n'y a plus la distinction du quo et du quod, mais il y a la description du quod. En philosophie réaliste, il y a la distinction entre l'expérience immédiate et la saisie d'un principe propre. L'expérience immédiate du quod, de la réalité existante, que cette réalité existante soit extérieure à moi, que cette réalité, papa, que cette réalité existante soit immanente à ma vie intellectuelle. La conception de homme de l'acuité avec un mode universel. Si je réfléchis, j'ai une expérience interne. J'ai l'expérience interne que je pense à homme. Et donc, en pensant homme, je conçois ce par quoi papa est homme. Voyez, c'est là où je distingue l'aristotélisme du platonisme. Pour Plotin, le plus grand des néoplatoniciens, le chef de file des néoplatoniciens, et qui a joué un très grand rôle dans la théologie chrétienne, dans Bonnier. Et vous connaissez Plotin, parce que quand vous voyez de véritables néoplatoniciens, vous devez connaître la grandeur de Plotin. Je ne dis pas la première année, parce que si vous lisez Plotin la première année, vous serez sur le charme de Plotin. C'est capital, tout revient à ça. C'est extraordinaire. Mais au fond, ça revient à voir qu'est-ce qui est en acte, qu'est-ce qui est en puissance, au point de vue de l'être. Homme, c'est ceci. Ceci est papa. Pierre. L'appréhension qui saisit homme est ordonnée au jugement. Ceci est. Mais je reviens toujours à ça parce que c'est pour montrer l'importance de cela. quand je réfléchis sur homme, la quidité homme, je vois que cette quidité est déterminée. C'est sûr. Différence spécifique. Genre et différence spécifique. Animal raisonnable. Donc raisonnable détermine. Mais elle est limitée aussi. Parce que, justement, ce rationnel raisonnable est lié à l'aspect générique de homme, de la nature, animal. Animal est limité en lui-même. Voilà l'unité. est la cause finale de ce qui est en tant qu'il est. Je vous ai toujours dit que dans l'induction, l'interrogation est l'âme de l'induction. Donc je ne peux saisir d'une façon vraie ce qu'est l'induction que quand j'ai saisi l'interrogation particulière. Autre chose est se poser la question: qu'est-ce qui détermine l'être? Quelle est la détermination fondamentale de l'être? Quelle est la quiétude fondamentale de l'être? Ce qui finalise est toujours ce qui est ultime, ce qui est dernier. Bon, ça c'est l'interrogation. Et il n'y a aucune raison de ne pas me poser cette interrogation à l'égard de l'être, de ce qui est. Pourquoi? Parce que cette interrogation n'implique aucune imperfection. C'est la finalité. Cela provient de la bonté de la réalité. C'est elle qui est capable d'attirer. Et donc se poser la question de la finalité de ce qui est en tant qu'il est tout à fait normal. Parce que ce qui est en tant qu'il est n'implique aucune imperfection. Négativement, au plan critique, je vois que se poser la question « qu'est-ce qui finalise l'être ?» c'est normal. Ce qui finalise l'être, c'est un état de bonté de l'être. C'est que l'être, par lui-même, en lui-même est bon. N'implique aucune imperfection. Donc il est bon. Alors je me pose la question: qu'est-ce qu'il finalise? Je prends divers exemples et je trouve dans tous les niveaux particuliers de ma philosophie, je trouve cette dualité entre ce qui attire et ce qui est attiré. Ce qui attire finalise ce qui est attiré. Et ça, je le vois tout de suite en éthique, à propos de l'expérience de l'amour d'amitié. C'est magistral. Tant que vous n'êtes pas attiré vers quelqu'un, vers une personne, vous ne l'aimez pas. Vous la côtoyez. Bien que je te rencontre toujours la même heure. C'est très bien, c'est très sympathique. Comme ça, tu m'as montré vivante. Hein? Je te rencontre à 8h tous les matins. Au coin de la route. Si toutes les rencontres étaient dans l'amour, il n'y aurait pas d'accident. Mais il y a des rencontres qui sont accidentelles. C'est curieux, oui, mais il faut essayer de comprendre ces choses-là. Non, la réalité, on n'y pense pas. La première fois, vous avez aimé quelqu'un. Ça, vous pouvez. On voit ça chez des gosses. Dès que vous réunissez des gosses entre eux. Un lieu vous réfléchissez. Alors on essaie de mettre de l'ordre. C'est celui qui vient de la droite qui a priorité. Est-ce que c'est suffisant pour établir l'ordre? Quand vous regardez les jours, n'est-ce pas, hein, surtout à Paris par exemple, vous posez la question, comment ça se fait qu'il y a un tel désordre? Quand il y a un agent de police qui veut mettre de l'ordre avec son bâton, lacune au niveau de l'excuser de l'individu. L'autre au niveau de la cunité. Ces deux déterminations sont une au point de vue détermination. Substance, c'est un. Et elles sont deux au niveau de l'ordre. Y a-t-il quelque chose d'analogue au niveau de l'induction de l'acte? Aristote, je me sers de lui, hein, puisque c'est quand même le grand frère, au point de vue de la découverte de l'acte. Aristote a découvert deux mots, du moins, a précisé deux mots. Et je suis, moi, convaincu que ces deux mots, c'est pour les deux grandes inductions métaphysiques. Le mot « totienainain » quidité, ça c'est jamais la substance comme principe selon la forme de ce qui est. Et plus vous découvrirez la différence entre le totienainain et l'individu, vous serez proche logique. montrer ce dépassement de la forme qui, pour Platon, la forme en soi est source. Aristote distingue l'aspect détermination et l'aspect exister. Ce qu'on dira ensuite, l'essence et l'exister. C'est sûr, l'acuité, c'est l'essence. Mais j'aime pas beaucoup, vous savez. Dès que vous dites ça, vous tombez en logique, ça va plus très bien. Et puis, l'exister. Il y a un acte ultime, l'individu, l'essai. À partir de là, de poser un principe propre, la substance. Alors, si je recherche l'acte, et Aristote donne à nouveau l'entelecheia. L'entelecheia est à la découverte de la cause finale, ce que l'acuité est à la découverte de la substance, de l'ousia, principe selon la forme de ce qui est. Donc, je peux découvrir que l'entelecheia va m'obliger de découvrir l'ami. Ce par quoi l'ami me finalise. L'ami comme tel n'est pas un principe, il est une réalité. C'est beaucoup plus qu'un principe, une réalité. Mais l'ami peut, et s'il est vraiment l'ami, il est aussi une cause finale. Alors, on aura l'analogue de ça, on aura l'aspect entelecheia et le point de vue de l'ami qui m'oblige de poser le point de vue de la finalité. Ce par quoi l'ami me finalise. Et ce par quoi l'ami me finalise, c'est la découverte de la cause finale.
Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 5 février 1998 à Saint-Jeudard.
Quand Heidegger, je ne m'appuie pas sur lui, mais je constate, quand Heidegger, parlant de la philosophie grecque, dit que le sommet de la philosophie grecque, c'est la découverte Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore, Aristote. âme est sensible à ça. Ne dites pas, parce que je suis un religieux et un moine, je ne suis plus sensible à ça. Vous verrez. N'est-ce pas, Olaf, vous direz, ah oui, oui, c'est vrai, il a dit ça. Et quand j'étais à Saint-Judas, ça me semblait net. Jamais cette tentation pour moi. Il n'y a pas de danger, c'est déjà fait. Non, même la vie religieuse, au point de vue chrétien, ne supprime pas cette tentation. C'était la grande tentation des pharisiens. Jésus la montre avec netteté. Alors, je sais que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le monde d'aujourd'hui. Je sais que c'est ce qu'il y a de plus difficile, indépendamment du monde d'aujourd'hui, pour mon intelligence humaine. La preuve, c'est que historiquement, il y a eu certaines découvertes de la causalité finale. Ça n'a pas duré. Même en terre chrétienne. Donc il faut savoir que c'est ce qu'il y a de plus difficile. L'induction de donc la découverte du principe propre selon la fin de ce qui est en tant qu'il est. Puisque c'est le plus difficile, je vois qu'il y a deux voies. Ça, évidemment, il faut avoir fait l'itinéraire soi-même. Il y a deux voies. Une première voie, je reprends pour cette découverte toutes les expériences de toutes les parties de la philosophie. réaliser tous les exercices. Puis, ensuite, à l'eau. Capacité de faire quelque chose. Puis, l'exercice. On doit réaliser. Fais ça maintenant. Au point de vue moral, éthique. Oui, je prends toutes les parties de la philosophie. Il y a une expérience que je suis bien obligé de reconnaître. Il y a deux états différents. L'état d'un être capable de faire quelque chose mais qui n'a pas encore fait. Et puis, il le fait. Aristote dira l'architecte peut construire une maison. L'architecte, avant de réaliser cette salle, a essayé de comprendre comment on pouvait utiliser ce qui existait déjà, puis ajouter un appendice. Je suis du côté de l'appendice. Alors, s'il est un très grand artiste, il arrivera à assumer cette première partie, la seconde, pour faire que l'œuvre soit faite. Et celui qui n'a jamais vu ce qui était avant, l'archéologue, en regardant bien, oui, je vois bien, on a dû ajouter ça à tel endroit, mais ça a été fait d'une façon tellement astucieuse qu'on a l'impression que ce qui existait attendait ce qu'on a ajouté. C'est plus un appendice, c'est un achèvement. C'est pas la même chose du tout. Comment expliquer ça? La relation de ce qui est antérieur à ce qui est postérieur. Qu'est-ce qu'il y a? On dira, il y a, ben oui, il fallait qu'il ait tout d'un coup compris comment de ces deux choses il y a une unité supérieure. Tous ceux qui ont réalisé quelque chose, et on réalise toujours quelque chose, hein. On est toujours un petit artiste. Dès que vous faites une dissertation, vous êtes un artiste. Pas faire un article sur ceci. Au point de départ, vous voyez les deux pièces et l'unité. Tant que vous n'avez pas vu l'unité, vous n'êtes pas capable de le réaliser. Il y a le maçon et puis l'architecte. Le maçon, oui. Il ne comprend pas l'unité. L'architecte, il comprend comment faire l'unité. Qu'est-ce qui fait ce passage entre les deux? Quel est le lien entre les deux? Je me pose la question. Le passage entre des éléments et puis l'unité. Le passage entre un état imparfait et l'état parfait de la réalisation. Et ceci se fait dans l'exercice. Très souvent, ceux qui sont trop logiques et trop perfectionnistes diront « Je n'agirai, je me jetterai à l'eau que quand je serai sûr, absolument sûr que ça va coller. » On lui dit « Vous ne vous jetterez jamais à l'eau. » Parce que c'est en faisant qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. On a toute cette expérience-là. Comment expliquer ça? Quel est le lien entre les deux? Je me pose la question. Au point de vue éthique, Pour un service spéculatif. J'ai le droit, je dois, regardez. Ah, je vois que toujours ce qui est indéterminé, la cause matérielle, est tout entière ordonnée à la forme. Il y a un ordre. Comment comprendre ça? Qu'est-ce que ça signifie, cet ordre? Entre l'imparfait, la cause matérielle, et ce que l'évolutionnisme a voulu affirmer avec une très grande force, je crois que l'évolution est analogue à la théorie des valeurs, pour le point de vue spéculatif, à la théorie des valeurs, pour le point de vue pratique. C'est très curieux de regarder l'évolutionnisme, comment c'est né. Si on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire découvrir, y a-t-il une finalité dans l'ordre de l'être? Parce que l'évolution voit bien que l'état imparfait est toujours polarisé par l'état parfait. La grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf. Cet évolutionnisme poétique qui est très amusant. L'âne qui veut faire des caresses à son maître, mais il oublie qu'il a un sabot. C'est moi, ça fait du mal, vous savez, les caresses de l'âne. Et enfin, la relation, ce dilemme très curieux qui existe au niveau. Et il y a la relation. Je sais très bien que la relation, c'est l'être le plus débile. On est relatif à un autre. Et pourquoi ça? Pourquoi dans l'étude métaphysique de la détermination de l'être, la substance ne suffit pas? On voit des philosophes qui ont voulu rester uniquement sur la substance. Spinoza et Descartes. Descartes n'a pas voulu aller plus loin que la détermination. Je suis. Or, il y a au niveau de l'être, il y a des limites. Dans mon être. Et je voudrais bien, quand je vois l'être de mon voisin, quand même pouvoir avoir toutes ses qualités. Et je crois que je peux pas. Tout simplement, au niveau de la vie, en mesurant le devenir, mon devenir vital, il mesure mon être, il atteint mon être. Je suis un être imparfait. Et l'autre que je découvre me montre terriblement ses imperfections. C'est pour ça que j'ai tellement de peine à le découvrir. Pourquoi l'autre échappe à la connaissance de la phénoménologie du vécu? Parce que l'autre n'est jamais mon vécu. Donc, je l'ignore. C'est l'obstacle le plus formidable à découvrir l'autre. Et si je ne découvre pas l'autre, je ne découvre pas mes limites dans mon être. Et je m'enferme dans un ego. Égoïsme métaphysique. Pour le seul être que je connais, c'est moi. Tant que je n'ai pas atteint l'autre dans un jugement d'existence au niveau de l'être, j'ai envie de le supprimer. Si j'identifie, ou plus exactement, si je comprends le jugement d'existence dans la lumière de mon je suis, l'autre ne m'intéresse plus. Parce que je ne peux jamais avoir deux je suis. L'étranger métaphysique. Et l'étranger métaphysique me gêne. Je m'enferme en moi-même. Et donc, je commets là quelque chose de terrible. dépassé par ceci. Il y a là quelque chose de capital. D'une certaine manière, mon « je suis » me permet de découvrir de l'intérieur mon être, ma substance, mon âme. Connais-toi toi-même. Hein? Connais-toi toi-même. C'est magnifique et c'est terrible. Parce qu'au fond, il n'y a que moi que je peux me connaître de l'intérieur. Seul homme qui ne te trompera jamais, c'est toi, à toi-même. Les autres, tu ne sais pas ce qu'ils ont. On ne sait jamais leur réaction. Donc je m'enferme. Voyez comment la fémologie du vécu est un mensonge métaphysique. C'est très important parce que vous voyez que là on va saisir la seconde voie, mais je ne la développe pas pour le moment. Je constate, je réfléchis à toutes ces expériences et je vois qu'il y a un ordre entre l'état de celui qui est imparfait à l'égard de celui qui est parfait, dans l'ordre du facere, dans l'ordre éthique de l'amour, dans l'ordre philosophique du devenir physique, dans l'ordre du vital, dans l'ordre de l'être. Et je me pose la question de ce pourquoi, de cette pourquoi il y a cet ordre-là. Comment se fait-il que l'imparfait apparaît toujours ordonné vers le parfait? Et ceci, je le vois dans toutes les expériences, jusque l'expérience de l'être. Mais je me pose la question. C'est comme ça. Le philosophe explicite des interrogations que d'habitude on ne fait aucune attention. C'est vrai. Demandez à un brave homme de la campagne. avancer vers le Varvé. Mais pourquoi y a-t-il cet appel vers le Varvé? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est une donnée. Mais cette donnée, de temps en temps, elle n'est pas juste, elle rate. Pourquoi certains, même au point de vue purement d'intelligence, aiment de se poser la question du pourquoi et d'autres pas du tout? Il y en a la grosse réponse, mais la grosse réponse massive d'Auguste Comte. Allez, pourquoi c'est l'enfant? Que l'enfant se pose la question du pourquoi, c'est normal. Après, on dira du père. C'est celui-là. Pourquoi l'imparfait tend vers le parfait? Pourquoi on demande à un novice de comprendre qu'il est novice? Et tant qu'il ne comprend pas qu'il est novice, il n'est pas novice. Mais est-ce que c'est conventionnel ou est-ce que c'est réel? Mais on retrouve. C'est la tradition. Oui, mais la tradition. On a quand même changé beaucoup de choses depuis. Qu'est-ce qu'on peut changer dans la tradition? Et qu'est-ce qui est inchangeable? Raisonnement de ceux qui mettent le devenir avant l'être. Ils disent la tradition c'est un absolu. On a toujours fait comme ça. Donc on doit continuer. Non. La tradition, sauf si vous dites que la tradition a comme source l'Esprit Saint. Ah, tiens. Donc, vous acceptez que la tradition n'est pas l'absolu. Et c'est comme ça que vous l'acceptez. Et dans la tradition, vous voyez la coopération de l'Esprit Saint. Ah, mais quelquefois, on trompe l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui est tellement doux se laisse tromper pour laisser à ses disciples la possibilité de se tromper. Il n'est pas un gourou. Il ne s'impose pas à l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que des petites saintes très sensibles, comme notre amie Thérèse de l'Enfant Jésus, Seigneur, ôte-moi la liberté de t'offenser. C'est naïf et c'est sublime. Je peux me servir de ça, ça fait partie de cette expérience quand même. Pourquoi la tradition est-elle vénérable? La vraie tradition. Ce petit livre du Père Congar. Le mystère de la tradition et les traditions humaines. Dans le mystère de la tradition, il y a la coopération de l'homme. C'est extraordinaire. Et les coopérations de l'homme font de temps en temps que la tradition divine est cachée par le projet d'un homme. Luther, au point de départ, était un moine. Comment se fait-il qu'il a voulu corriger la tradition augustinienne et mettre son grain de sel? Luthérien. tradition que l'Église a dit, ce n'est plus l'Esprit Saint. Il y a des querelles à l'intérieur. Mais c'est toujours la question du pourquoi. Pourquoi la tradition est-elle juste et comment est-elle juste? Quand on dit la tradition est vénérable parce qu'elle est l'œuvre de l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, il est Dieu, il n'a pas de devenir. Tiens, intéressant ça. Celui qui n'a pas de devenir, il est parfaitement en acte. Donc vous retrouvez même à un niveau chrétien, je sais très bien, mais le philosophe a le droit, s'il vit dans un monde qui a été chrétien, il a parfaitement le droit de regarder certaines choses qui se passent en chrétienté. Et vous retrouvez en chrétienté encore le problème du primat de l'acte sur la puissance. La tradition est parfaite si elle est l'œuvre de celui qui est l'amour, qui est l'acte parfait, l'intellegeia parfait. Alors, voilà le problème qui se pose. Pourquoi ce qui est en puissance est ordonné l'imparfait, est ordonné au parfait? Voilà une question qui est en dehors de la découverte de la substance et qui se pose au niveau de l'être. Finalise, attire ce qui est en puissance. cette cause matérielle indéterminée qui est suffisamment forte pour faire que toute détermination reçue dans un être en puissance devient une limite. Voyez le passage de la détermination et de la limite. C'est très curieux que la détermination limitée, c'est la détermination reçue dans la potentialité qui n'est pas entièrement acte. Je vois à partir de toutes ces expériences que au-delà de tel niveau, je retrouve toujours le même ordre. Et je cherche pourquoi. C'est que ce qui est en acte finalise, attire ce qui est en puissance, ce qui est limité. Je saisis là, au niveau de l'être, que l'acte finalise et que ce principe se trouve réalisé dans toute cette diversité. N'ayant plus de potentialité.